Bonjour chères autrices et chers auditeurs, bienvenue sur Radio Judaïka. Aujourd'hui, nous avons l'immense joie d'abord de reformer un duo iconique avec Thierry Ross qui est à mes côtés. Bonjour Thierry Ross.
Bonjour Dan Leclerc.
Aujourd'hui, retour de votre émission, absente des ondes pendant quelques semaines, voire quelques mois. C'est la Communique qui est de retour avec un invité de marque, Thierry Ross.
Il s'agit du président du CRIF, le nouveau président jeune et talentueux. Jonathan Arfi.
Jonathan Arfi, bonjour.
Bonjour.
On est très heureux de vous avoir ici avec nous à Strasbourg. Premier déplacement, je crois, officiel dans la ville de Strasbourg devant un parterre que vous avez littéralement conquis pour cette première conférence. Nous avons une question traditionnelle dans notre émission La Communique avec Thierry Ross. Thierry, vous faites la première et la deuxième. Non, allez, je commence. Et qui êtes-vous ?
Et d'où venez-vous ?
Voilà des questions qui sont très philosophiques.
Il faut bien débuter, tout de suite.
Pour une émission de radio. Non, écoutez, qui je suis, je me définis comme un militant juif, républicain, sioniste, engagé avec une approche volontariste sur le terrain de la cause juive. Voilà, et d'où je viens, écoutez, je viens culturellement d'une famille juive séfarade qui a grandi dans les Yvelines, en l'occurrence dans la communauté juive de Versailles. Et je suis surtout marqué non pas par les lieux que j'ai traversés, mais par les périodes que j'ai vécues, et en l'occurrence la confrontation à l'antisémitisme de la seconde intifada du début des années 2000 et de sa traduction en France, qui ont construit le militant que je suis aujourd'hui.
Pour en tant que représentant, en tant que président du CRIF, c'est une mission importante. Vous y êtes intégré et impliqué depuis de nombreuses années. Est-ce que vous pouvez définir pour nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément tous les rôles qu'a le CRIF, qu'est-ce que le CRIF ? Qu'est-ce que le CRIF dans sa représentation ? Mais surtout, qu'est-ce que le CRIF pour vous ?
Le CRIF, c'est, j'allais dire, le paratonnerre des Juifs de France. C'est l'organisation qui a la responsabilité de protéger les Français juifs en assurant leur représentation politique auprès à la fois donc des pouvoirs publics, des médias et de la société civile. Cette responsabilité, c'est celle qui pèse sur les dirigeants successifs du CRIF depuis 1943, date à laquelle l'ensemble des composantes du judaïsme français se sont réunis au cœur de la résistance et pendant la période la plus sombre du judaïsme français pour penser le judaïsme d'après-guerre et son mode d'organisation. Voilà la responsabilité qui est sur nos épaules. Ce que ça veut dire pour moi très concrètement, c'est d'assurer le contact le plus riche, le plus dense possible au nom de la communauté juive avec l'ensemble des composantes de la société française et notamment, évidemment, des responsables politiques.
On imagine cette représentation très importante avec des dizaines, voire peut-être même une centaine de personnes, des millions de budgets. Je crois que la réalité est tout autre.
Mais le CRIF, c'est un engagement militant. Il y a une équipe professionnelle qui est d'une dizaine de personnes, mais il y a surtout des militants engagés à leur côté pour faire vivre au quotidien cette institution. Elle repose aussi sur des représentations en région, et je veux saluer le travail qui est réalisé ici par la délégation régionale du CRIF en Alsace. Notre efficacité repose sur la vigilance de chacun, sur le fait que les uns et les autres se sentent concernés par ce qui arrive autour d'eux, et ensemble, nous veillons à porter cette parole juive dans le débat public.
Je crois que vous êtes de la génération Y, c'est ça ? X ou Y, je ne sais pas. Vous êtes né dans les années 80, vous êtes de cette nouvelle génération des nouveaux cadres communautaires nationaux de la communauté juive. Vous avez axé, je crois, l'orientation de votre communication sur deux axes. Le premier, c'est le terrain, et notamment, presque les territoires perdus de la communauté, pour en paraphraser Georges Bensoussan, mais également le digital. Quels sont les nouveaux axes de communication du CRIF ? Et on sait à quel point c'est important de convaincre.
Vous avez raison, effectivement. J'ai beaucoup insisté sur l'importance de reconnecter le plus possible avec le terrain communautaire. Et je tiens beaucoup à ces rencontres de communautés. J'ai été, depuis le début de mon mandat, dans une dizaine de villes rencontrer les communautés juives. Alors à chaque fois, le format est le même. Je rencontre d'une part les communautés juives, mais d'autre part évidemment les pouvoirs publics locaux, des responsables politiques, pour prendre le pouls de la ville dans toutes ses dimensions. Mais je crois que c'est fondamentalement la responsabilité du CRIF. Ce que je veux donner comme sensation, c'est le sentiment d'un CRIF accessible, d'une part, d'un CRIF sur le terrain, d'un CRIF que l'on peut mobiliser, d'un CRIF de proximité qui, effectivement, fait l'effort d'écouter la parole des Français juifs qui, sur le terrain, ont parfois des inquiétudes, mais aussi des aspirations ou des espoirs. Il y a aussi des choses positives qu'ils veulent nous faire entendre.
Thierry Ross le précise à l'instant, vous axez votre communication et votre plan d'attaque, si je puis le dire ainsi, sur le digital. On sait qu'aujourd'hui, c'est près de 50 000, c'est le chiffre que vous avez annoncé tout à l'heure, de contenus antisémites qui restent après suppression par les plateformes. C'est énorme, la tâche est colossale. Comment est-ce que vous allez mener ce combat contre l'antisémitisme en ligne ?
C'est effectivement une tâche colossale parce que nous avons une vague de contenu qui est à une échelle 100 par rapport aux actes physiques. Je le disais tout à l'heure, il y a 436 actes antisémites enregistrés en France en commissariat en 2022. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'actes antisémites, de propos antisémites en ligne décomptés par le CRIF dans le cadre de son observatoire de la haine antisémite sur Internet chaque année. On est donc sur un facteur de 1 à 100. Face à ça, il y a deux choses que nous pouvons faire. La première, c'est de continuer à responsabiliser les plateformes. Elles ont un rôle à jouer, elles ne sont pas neutres par rapport aux contenus qui sont publiés chez elles. Elles ont une responsabilité et je souhaite que leur responsabilité soit encadrée par le législateur de manière plus stricte, qu'il y ait des impératifs de mettre des équipes de modération, que ces équipes de modération soient contrôlées, répondent à un certain nombre de critères. Je crois que c'est une manière d'avancer dans le fait de, contenir le flot de haine sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et puis la deuxième chose, c'est le rôle que chacun a joué. Quand on est sur Internet face à un contenu antisémite, raciste, homophobe, sexiste, bien, on peut aussi répondre. On peut signaler, mais on peut aussi répondre pour mettre un contenu positif. Ne considérons pas, nous tous individuellement, que la cause est perdue. Je crois qu'il y a beaucoup de bonne volonté en France. L'immense majorité des Français sont des gens raisonnables. Et si seulement nous arrivions à les rendre plus actifs pour défendre ces choses-là, eh bien, je suis sûr que nous pourrions arriver à des résultats.
Est-ce que l'arsenal judiciaire, la justice et le pouvoir législatifs sont suffisants pour contrer l'antisémitisme ou pensez-vous qu'il faut renforcer de nouvelles lois, de nouvelles mesures judiciaires ?
L'état des lieux, c'est d'abord que nous avons en France l'un des arsenaux législatifs les plus stricts sur les questions d'antisémitisme. Au fond, nous avons une loi pour interdire le négationnisme, la loi Guesso. Nous avons une loi des lois contre l'antisémitisme, bien sûr. Et nous avons des lois qui pénalisent les appels au boycott de manière générale, et donc les appels au boycott de l'État d'Israël, qui est aussi un mode d'expression aujourd'hui de l'antisémitisme concrètement sur le terrain. Donc nous avons un arsenal législatif extrêmement puissant que beaucoup de pays nous envient. Mais ce que je constate, c'est que l'exécution sur le terrain est beaucoup plus imparfaite, que nous avons des difficultés à faire entendre la réalité de l'antisémitisme dans des propos antisionistes, c'est-à-dire qui viennent remettre en cause la légitimité de l'État d'Israël. Autrement dit, il y a eu une démarche politique, l'adoption de la loi IHRA qui définit l'antisémitisme avec une définition large, intégrant toutes les composantes de l'antisémitisme, y compris la haine d'Israël, y compris le complotisme. Nous avons derrière des applications qui ne tiennent pas compte de cette définition et qui restent centrées sur une vision, on va dire, étroite de l'antisémitisme. Notre responsabilité, c'est de faire que demain, les acteurs publics à tous les niveaux aient conscience de cette variété de visages de l'antisémitisme pour mieux les identifier et mieux les combattre.
Alors, il y a la variété des images, des idées antisémites. Comme vous le disiez, Yonatan Arfi, je rappelle, vous êtes avec nous, président du CRIF national. Il y a également l'islamisme, le complotisme, l'extrême droite sur laquelle il faut lutter. Vous disiez également que finalement, ça ne suffit plus d'aller voir au plus haut sommet de l'État les politiques et les institutions. Il faut évangéliser plus large.
Oui, mon sentiment, c'est qu'on est dans une période où la puissance publique est mobilisé, je n'en doute pas. Il y a une volonté politique certaine de lutter contre l'antisémitisme, mais que pour aller plus loin, il faut la responsabilisation et la mobilisation de la société civile. La société civile seule est capable de transformer aujourd'hui significativement les opinions publiques. Et c'est ça que nous devons parvenir à faire, c'est-à-dire identifier des partenaires, des alliés dans ce combat. Nous ne sommes pas seuls parce que l'antisémitisme n'est pas qu'une menace pour nous. L'antisémitisme est une menace pour l'ensemble de la société française et beaucoup de gens en ont conscience. Nous avons donc des alliés qui sont capables d'entendre cela, d'entendre que lorsqu'on s'attaque aux juifs, c'est un signe précurseur du fait que demain il y aura davantage de racisme, de sexisme, d'homophobie, de haine de la France aussi qui se développera. Et notre responsabilité, c'est évidemment de travailler à cette prise de conscience parce que seuls les Français, dans leur mobilisation, j'en parlais pour les réseaux sociaux, mais c'est vrai aussi dans d'autres dimensions, peuvent faire barrière à ce phénomène. Sinon, l'État en tant que tel mobilisera, mais l'application derrière ne suivra pas.
Vous évoquez, Yonatan Arfi, un cas très concret avec une action que vous avez menée avec des sportifs, des jeunes athlètes, en les emmenant, par exemple, directement au siège de l'horreur à Auschwitz.
Alors c'est exactement, c'est un projet que nous avons. J'insiste sur ce point parce que le monde du sport est un monde extrêmement important dans le combat contre l'antisémitisme et le racisme. Il y a aujourd'hui de l'islamisme qui gagne dans un certain nombre de clubs sportifs, on le sait. Il y a, par le biais du sport, un moyen de s'adresser peut-être plus efficacement aux nouvelles générations. Il y a un outil, le sport, qui est vecteur de vivre ensemble et de cohésion sociale de manière extrêmement puissante si on l'utilise positivement. Il y a une capacité aussi à produire des images, à produire des choses qui se partagent sur les réseaux sociaux. Donc je souhaite que nous mobilisions en amont des Jeux Olympiques 2024 l'ensemble du secteur autour de ces messages-là. Et donc nous organiserons à la rentrée, au mois de novembre, un voyage à Auschwitz pour amener des responsables de fédérations sportives, des sportifs de haut niveau, des sportifs amateurs, des entraîneurs, des joueurs, des journalistes sportifs. Enfin bref, tout l'écosystème du sport mobilisé autour de la question de la lutte contre l'antisémitisme par le biais de ce voyage à Auschwitz, mais au-delà de ça, pour les sensibiliser au fait qu'ils ont une responsabilité. C'est un outil puissant qui doit aussi œuvrer à une société meilleure.
Également, le monde de l'éducation nationale est un milieu qui est un petit peu en dérive, où on n'arrive parfois pas à faire court sur la Shoah. Est-ce que le discours que nous avons tenu, qui est parfois un petit peu angélique, est suffisant pour faire comprendre ce qu'est un juif et faire comprendre ce qu'est l'antisémitisme ?
Ben, il faut continuer, bien sûr, à enseigner la Shoah. Et il faut, là où il y a des difficultés à le faire, parce que des élèves s'y opposent au nom de discours de concurrence victimaire, parce que certains, quand on veut parler de la mémoire de la Shoah, ne veulent pas l'entendre et souhaitent que l'on parle à la place de la question de la colonisation ou de la question des Palestiniens, parce que ce sont des réalités qui existent dans des endroits limités, mais réels. J'insiste sur le fait que c'est limité, hein, on parle de quelques dizaines sans doute de lieux où c'est vraiment ce type de problématique. À l'échelle nationale, c'est somme toute relativement faible, et quelques centaines ou milliers de lieux où c'est plus compliqué, mais où ça reste entre guillemets gérable. En revanche, ce que je constate, c'est que nous avons du mal à faire passer une image positive du fait juif dans le monde scolaire. On parle aujourd'hui des juifs dans les programmes scolaires uniquement à travers la question de la naissance du judaïsme et des hébreux, donc au fond l'angle religieux, puis ensuite à travers l'angle victimaire, par le biais de l'approche de l'affaire Dreyfus, puis de la Shoah, c'est-à-dire de la question de l'antisémitisme. Si on veut aborder le fait juif comme un fait positif, il faut parler de la présence juive médiévale, et ici en Alsace, on en sait évidemment quelque chose. Il faut parler de la contribution des juifs à l'édification de la République au XIXe siècle, parler du judaïsme aujourd'hui, dans ce qu'il apporte à la République, la manière dont il est tissé dans la société française. C'est une manière de participer à une vision, un regard plus positif autour du judaïsme dans la société française.
Alors vous parliez de la société française, de l'importance des juifs dans la République. C'est vrai qu'ici, en Alsace, on a de grandes figures, même moyenâgeuses, en parlant par exemple de Yossel de Rosheim, qui était un grand érudit et surtout un lien avec les différents... Pardon ?
Un grand
avocat de la cause juive, oui.
Grand avocat de la cause juive, exactement. Et c'est vrai que nous sommes un berceau, un terreau particulièrement important et du vivre ensemble, et du vivre ensemble dans les multiples communautés que nous avons et dans les religions. Le CRIF est présent également, bien évidemment, à Strasbourg. Est-ce que peut-être en quelques mots, avec Pierre Asse, que nous saluons aussi ici, présent délégué régional CRIF Est à Strasbourg, quelles sont les actions qui sont menées ici en local? Comment est-ce que ça s'organise vis-à-vis de l'organisation parisienne, et comment est-ce que sur le territoire tout ça est tissé?
Alors sur ces sujets locaux, vous aurez, j'imagine, l'occasion d'échanger avec Pierre Asse, le délégué du CRIF en Alsace. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une action nationale qui se décline très souvent en action locale, d'abord sur des prises de position politiques. Le combat que nous menons aujourd'hui contre les extrêmes, à la fois le risque politique représenté par le Rassemblement national, dont nous voyons 2027 s'approcher avec inquiétude, et puis de l'autre côté, le combat mené face à la France insoumise, qui est devenue un pourvoyeur d'idéologie antisioniste, qui est dans la complaisance avec des réseaux indigénistes, islamistes ou antisémites extrêmement sensibles pour nous. Donc nous menons ces combats à la fois au plan national et toujours évidemment au plan local. Et bien entendu, le type d'action que nous menons, de dialogue de la société, n'a de sens que s'il est décliné sur les territoires. Et donc c'est évidemment le cas ici aussi en Alsace, comme c'est le cas dans la dizaine d'autres régions où le CRIF est implanté, où le CRIF travaille.
Alors, parler de région, d'engagement, c'est un véritable sujet. Les jeunes également, comment les impliquer? Je sais qu'à plusieurs reprises dans vos interventions, vous avez proposé, en tout cas indiqué, l'engagement, cette demande de venir vous rejoindre. Comment est-ce que concrètement, des jeunes, des moins jeunes, toutes les strates de la société, juives ou non, peuvent venir s'intégrer et travailler à vos côtés?
Alors c'est une bonne question, hein, comment on sensibilise ou on mobilise des nouvelles générations à ces combats-là. D'abord, peut-être en expliquant que le combat républicain, parce qu'au fond, nous, militants juifs, ce que nous menons, c'est un combat républicain contre l'antisémitisme, et bien expliquer que le combat républicain n'est pas ringard, que le combat républicain n'est pas dépassé, qu'il est complètement d'actualité, voire même que c'est un projet d'avenir. Et notre responsabilité, c'est d'expliquer en quoi le judaïsme français est un projet d'avenir, parce qu'il trouvera sa place dans une république qui, elle-même, sait se projeter plus sereinement dans l'avenir. Donc ce n'est qu'à ce prix-là qu'on pourra mobiliser des jeunes. Vous ne mobiliserez pas des nouvelles générations en leur expliquant que tout est foutu, tout est perdu, et qu'il n'y a pas de chemin, qu'il n'y a pas de porte de sortie. Notre responsabilité, c'est d'expliquer que, en nous mobilisant collectivement, eh bien, on va pouvoir trouver le chemin, certes compliqué, mais il y a toujours un chemin de crête qui existe, vers un avenir plus vertueux, d'une part. D'autre part, que nous y avons un rôle à jouer, que nous sommes partie prenante, qu'il n'y a pas de fatalité, que nous pouvons, dans cet écosystème et cet environnement qui n'est pas simple, eh bien, dessiner les contours d'une république fraternelle, laïque, j'insiste sur ce point-là, fraternelle et tout à fait bienveillante vis-à-vis des Juifs. Donc, en tout cas, c'est ce que nous essayons de mettre en lumière le plus possible.
Le président de la République a dit, je crois, au dîner du CRIF, que l'antisionisme est le fauné de l'antisémitisme. Je crois que c'est dans ces termes qu'il l'a dit. Effectivement, vu la loi du retour, qu'avec un certificat de judaïté, on peut rapidement devenir israélien, on peut comprendre le lien étroit qu'il y a entre les communautés de diaspora, les communautés juives de diaspora, et l'État d'Israël. Est-ce que cette instrumentalisation de cette loi du retour, qui a un effet miroir d'ailleurs du côté palestinien, est-elle vraiment à l'origine du problème de l'antisémitisme en France ?
Non, vous savez, l'antisémitisme n'a attendu ni la création de l'État d'Israël, ni la composition de tel ou tel gouvernement pour exister. Il y a de l'antisémitisme depuis aussi longtemps qu'il y a malheureusement des Juifs, et peut-être même somme toute avant, je n'en sais rien. mais ce qui est certain, c'est que c'est un phénomène qui est bien plus ancien que la question de l'État d'Israël. Donc toutes les idéologies qui viendraient dire que, au fond, l'antisémitisme trouverait sa source dans les agissements d'Israël, par exemple, sont en fait des discours extrêmement pervers, parce qu'ils viennent faire porter symboliquement la charge du mal qui frappe les gens sur eux-mêmes, en disant qu'au fond, ce serait donc les Juifs, symboliquement, par le biais de l'État d'Israël, qui seraient responsables de l'antisémitisme. Donc ces discours qui, pour moi, sont extrêmement dangereux. En revanche, ce qui m'importe, c'est bien d'expliquer en quoi les discours antisionistes, c'est-à-dire ceux qui s'attaquent à la légitimité même de l'État d'Israël, sont des discours par essence antisémites. Ils le sont parce qu'au fond, ils traitent l'État d'Israël comme l'antisémitisme à travers l'histoire a toujours traité les Juifs, c'est-à-dire qu'ils les condamnent non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Lorsqu'on reproche à l'État d'Israël d'être un État juif et d'exister en tant que tel, eh bien, on le condamne pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il fait, comme on a condamné des Juifs pour ce qu'ils étaient et pas pour ce qu'ils faisaient. Donc on a la responsabilité d'expliquer ces passerelles-là, d'expliquer aussi que la légitimité de l'État d'Israël, c'est au fond simplement le droit pour le peuple juif de disposer de son autodétermination, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est somme toute simplement ce droit-là qu'on accorde à tous les autres peuples, qui est accordé aussi au peuple juif en ayant un État, celui de l'État d'Israël. Après, libre à chacun des membres du peuple juif d'y vivre, de ne pas y vivre. Et il y a aujourd'hui à peu près plus d'une moitié des Juifs dans le monde qui ne vivent pas au sein de l'État d'Israël et qui sont citoyens pleinement engagés dans les sociétés dans lesquelles ils vivent. Et on peut voilà. Et c'est des réalités qui doivent être rappelées pour expliquer en quoi l'antisionisme, la haine d'Israël, est antisémite.
Jonathan Arfi, président du CRIF, au lendemain des fêtes de Pourim, à la veille de ces fêtes de Pessah, cette Pâque juive, ce CEDER que nous allons toutes et tous organiser et préparer, on a coutume de dire l'année prochaine à Jérusalem, en Israël, quelle serait la suite de la phrase que vous pourriez partager avec nous?
Écoutez,
et nous souhaiter.
Moi, ce que je souhaite, c'est surtout que l'an prochain, on soit dans une France plus apaisée. Mais je le dis... pas seulement pour la condition juive. J'insiste sur ce point. J'ai envie de dire, les Juifs ont toujours vécu avec l'antisémitisme. On a vécu avec, on vit avec et on vivra encore avec demain. Lorsque nous alertons nos interlocuteurs sur la question de l'antisémitisme, c'est pour leur faire entendre que, au fond, ce qui nous intéresse, c'est le sort de ce pays. Nous sommes partie prenante de la société française depuis 2000 ans. Il y a des traces du judaïsme français dans énormément d'endroits de ce pays, y compris les plus reculés. Avec des histoires toujours tissées aux réalités locales. Et ce qui m'importe, c'est que nous, Juifs, contribuions à la prise de conscience que la France est frappée par des fléaux, qu'elle doit en prendre conscience sans fatalisme, sans considérer que tout serait perdu, mais en considérant qu'il y a beaucoup à faire. C'est là notre responsabilité, celle d'alerter la société française sur elle-même.
Il est vrai que la France, je parle pour vos ancêtres, les miens et ceux de Dan, et tous ceux qui sont dans cette pièce, ont tous été à un moment ou à un autre attirés par cette France des Lumières, la République et ses principes, les droits de l'homme, qui sont, pour faire le parallèle avec les tables de la loi. Est-ce que la France reste un modèle pour les Juifs du monde, ou est-ce qu'Israël n'a pas pris la place de ce pays des Lumières pour les Juifs?
D'abord, il y a toujours eu beaucoup de modèles dans le monde juif. Vous savez... on a toujours dans les imaginaires collectifs les discussions sur où est-ce qu'il faut partir dans le monde juif. On imagine les populations juives vivant dans la Russie tsariste choisir entre partir effectivement aux États-Unis ou en Europe occidentale ou à l'époque en Palestine mandataire pour trouver un destin meilleur. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de vérité à cela. Et ce qui est vrai un instant est peut-être faux le lendemain. En revanche, ce que moi je sais, c'est que le judaïsme français est fort, qui par plein d'aspects, il va bien aussi. Il y a des choses qui vont mal, mais il y a aussi des choses qui vont bien.
C'est bien de l'entendre aussi, ça y est. Merci de le partager.
Mais je le dis parce que c'est un modèle dont on peut aussi être fier. Le judaïsme français a quelque chose à mettre en partage avec nos concitoyens dans la société française, à mettre en partage aussi avec les générations futures, à mettre en partage dans le monde juif. Il y a une manière finalement très particulière d'être juif dans la société française. On arrive par exemple à être juif tout en étant parfaitement laïque. C'est quelque chose qui, pour nos amis anglo-saxons, est extrêmement difficile à entendre et à concevoir. On est à la fois parfaitement des républicains parfaitement engagés et intégrés, et en même temps assumons un engagement sioniste, c'est-à-dire nous nous tenons aux côtés d'Israël dans l'édification de cet État. que nous accompagnons et que nous soutenons. Donc nous avons comme ça énormément de questions avec lesquelles nous nous construisons. Et le juif en diaspora vit avec ces tensions-là et ces questions-là, et c'est ce qui fait, je crois, la richesse
juif en diaspora. Et finalement des affirmations aussi, parce qu'on a cette prière pour la République que tous les Shabbats nous lisons en français dans nos synagogues, prière pour le peuple français, pour la République française et pour le président. Donc c'est important quand même cet attachement.
Exactement. Alors moi, je suis attaché à une date, le 27 septembre 1791, qui est la date du décret d'émancipation des Juifs de France, où est voté ce texte à l'Assemblée nationale constituante, et enfin à la constituante. Et en fait, on a à ce moment-là les bases, j'allais dire, du franco-judaïsme, qui a ensuite porté institutionnellement la communauté, culturellement la communauté, pendant près de 200 ans. Alors évidemment, les choses ont changé avec le temps, mais cette date-là mérite d'être célébrée à la fois dans la communauté juive, mais aussi par les institutions républicaines. Je crois que c'est le témoin de notre ancrage à la fois historique dans la société française, mais aussi géographique, puisque c'était à l'époque des communautés qui étaient réparties très largement sur le territoire.
Vous le dites régulièrement à qui veut bien l'entendre, français et juif, et pas juif français. Et cette notion, elle est quand même importante.
Moi, j'ai pas de préférence, d'ordre de préférence entre les différentes formules, français, juif, juif de France, juif français. Personnellement,
moi, c'est l'un et l'autre au même niveau.
Moi, oui, voilà. Mais si je devais dire quelque chose, en revanche, c'est que je suis un juif en français et que ça, c'est extrêmement structurant pour moi. Et je ne serais pas le même si j'étais anglophone ou voilà. Et ça, c'est fondamental. En revanche, ce que je sais, c'est que je suis un juif en français et que donc, si demain je devais vivre ailleurs, je resterais toujours un juif en français, pensant en français et faisant vivre le judaïsme français à travers ça, à travers ça, la langue.
Et vous le faites vivre avec beaucoup d'espoir et de puissance. Merci beaucoup, Yannathan Arfi, président du CRIF de France. Nous sommes ravis de vous avoir avec Thierry Ross, vous avoir reçu ici à Strasbourg au sein de Radio Judaïka et au micro de Radio Judaïka. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter bonne route, bon succès et bon travail, parce qu'il y en a, et que toutes les bonnes œuvres et toutes les bonnes mains et envie souhaitent puissent vous rejoindre et vous accompagner dans ce travail. Merci à vous.
Merci à vous.
À très bientôt.
Au revoir.